ce tourbillon que nous venons de découvrir, c'est le final du ballet Daphnis et Chloé, donc de Maurice Ravel, évidemment, ça ne vous échappera pas. Donc ce ballet qui est en fait le seul ballet vraiment abouti avec Adélaïde, dont on parlera tout à l'heure, si vous voulez, qui a été vraiment écrit pour une troupe de ballet et réalisé, parce qu'on verra qu'il y a eu d'autres essais qui n'ont jamais abouti. Alors ce ballet a été écrit pour les ballets russes, qui étaient une troupe assez fabuleuse dans le Paris d'avant-guerre, hein, puisque ce ballet date de 1912. La chorégraphie était d'un chorégraphe hyper réputé, qui s'appelle Michel Fokine. Les décors étaient de Bakst, qui est un peintre assez extraordinaire, les costumes rutilants, etc. L'histoire, c'est une pastorale, une bergerie, si vous voulez, d'un poète grec du IIe siècle qui s'appelle Longus et qui a été adapté, donc une idylle entre Daphnis, le monsieur, et Chloé, la bergère. Hein, tout se terminera bien dans l'allégresse générale, puisque vous venez d'entendre cette allégresse générale, ce ballet terminal, cette danse furieuse qui ressemble un peu à une bacchanale, en quelque sorte, hein, quelque chose comme un tourbillon, déjà dans lequel, sur le plan musical, on peut percevoir des sonorités, on va dire déjà recherchées, hein, parce que ce n'est pas le blabla tchaïkovskiesque, j'allais dire, mais vous avez déjà quelque chose de plus dans l'harmonie, dans la façon de conduire les timbres, entre autres. Alors, donc, deux ballets aboutis, mais en fait, beaucoup d'autres pièces de Ravel, écrites souvent d'abord pour le piano, parce qu'il était pianiste, et puis ensuite orchestrées par lui-même, parce que c'est un orchestrateur, on verra, fabuleux, hein, absolument, eh bien, ont été ensuite adaptées pour le ballet. Donc ça veut dire que si les chorégraphes se sont intéressés à cette musique, c'est qu'il y a un art du mouvement, si vous voulez, qui est déjà senti tout de suite. Ensuite, on verra dans un autre temps, si vous voulez, que si on regarde les titres des pièces de Ravel, on voit beaucoup de titres de danse. Ça commence par la pavane, ensuite il y a le menuet, il peut y avoir le boléro, j'allais l'oublier, mon Dieu, c'est pas possible. Et enfin, si vous voulez, et encore la valse aussi, par exemple. Donc, si Ravel aussi lui-même donne des titres de danse à ses pièces, c'est donc qu'il y a aussi un grand intérêt. On verra qu'il y a des préférences. Hein. Par exemple, si on regarde le catalogue de ses œuvres, on verra qu'il a écrit plusieurs menuets. Il a aussi orchestré des pièces qui ne lui appartenaient pas. Hein. Par exemple, il a orchestré un menuet pompeux de Chabrier. Il va orchestrer une sarabande de Debussy, etc. Hein, il y aurait encore d'autres exemples. Donc Ravel va chez les copains aussi, si vous voulez, et il s'intéresse à ces danses, mais ces danses ne sont pas des danses d'aujourd'hui, ni même du début du XXe siècle. Hein. Ce sont des danses de quelle époque? XVIIe, XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle en musique l'époque classique, ou tout du moins le baroque qui s'achemine vers le classique. Donc ça veut dire aussi que l'intérêt de Ravel se porte sur une certaine période de l'histoire de la musique et qu'il aime revenir en arrière pour y faire quoi? Eh bien justement, on va voir ça ensemble. Alors donc, Ravel, on va parcourir un petit peu sa vie dans ses débuts, hein, simplement. Il est né à Cibourg. Alors Cibourg, c'est au Pays Basque, en 1875. Il naît au Pays Basque parce que sa mère était d'ascendance basque et que le premier-né chez les Basques doit naître au Pays Basque. Alors bon, il y a passé les premiers mois de son existence et après il a été à Paris. Il va faire ses études au Conservatoire de Paris, en piano, bof, oui, il n'était pas assez travailleur pour ça. Mais il va rapidement s'intéresser davantage à l'écriture, hein, et à l'orchestration. Alors il va toujours vivre à Paris. Ou alors, parfois, il viendra en Bourgogne aussi, mais enfin, ou à Montfort-l'Amaury, c'est là qu'il y a le musée Ravel maintenant. Alors, j'ai parlé de sa maman, mais je n'ai pas parlé de son père. Son père, il était ingénieur d'origine savoyarde, tant mieux, donc c'est un type bien. Et puis suisse aussi, un petit peu quand même. Et son père était un ingénieur qui était d'une méticulosité, d'une inventivité. une inventibilité, voilà, tout à fait remarquable, qui aimait bien les choses bien faites, très très précises, etc. Et Ravel va hériter de ça. Ravel va être un travailleur très très acharné. Hein, il a dit à quelqu'un qui lui disait « Maître, vous avez du génie ». Il lui a répondu d'un ton un peu sec « Si tout le monde travaillait autant que moi, tout le monde aurait du génie ». Donc c'était un grand travailleur. Et puis il gardera de son père peut-être de cette espèce d'esprit très très précis, très méticuleux. Vous savez que Stravinsky le traitait un petit peu avec condescendance d'horloger suisse. Voilà. Bon. Alors donc il va donc vivre à Paris 6 ans après sa naissance. Il va donc 5 ans même. Il va connaître la Commune et il va connaître donc les débuts de la Troisième République. C'est intéressant de rappeler cela parce que, si vous voulez, il faut se rappeler l'atmosphère qui régnait alors à Paris dans cette fin de siècle, début de siècle. D'une part, vous avez une espèce d'effervescence artistique assez extraordinaire. Non seulement sur le plan musical, hein, avec des gens comme Debussy, bien sûr, mais aussi sur le plan littéraire. Je pense à Stéphane Mallarmé ou à d'autres, ou à Verlaine, Rimbaud. Et puis, sur le plan pictural aussi, vous avez des tas d'étrangers qui viennent d'apparaître. Vous avez le début du fauvisme, le début de l'abstraction. Enfin, bref, ça éclate de tous les côtés. Et de cette atmosphère, si vous voulez, cette émulation artistique, on va voir que Ravel va passer un petit peu... Enfin, nous, on le verra peut-être pas tellement, mais passera par un peu par tous les effets de style. Hein. Il sera d'abord symboliste. Hein, on pourrait voir ça avec Gaspard de la Nuit, par exemple, cette pièce pour piano. Mais après, il va évoluer tout petit à petit vers une espèce d'épure et de classicisme. Alors, Ravel, sur le plan politique aussi, c'est intéressant de savoir, si vous voulez... D'abord, il est dans cette atmosphère assez bizarre. Hein. On est entre la guerre de 70 et la guerre de 14. Donc, on est très nationaliste en France. Hein. On est obsédé par la revanche, etc. Et Ravel aurait pu sombrer là-dedans. Bien sûr qu'il va être aussi nationaliste, surtout à partir de la guerre de 14, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il aurait voulu la faire, cette guerre, puis finalement, il ne l'a pas faite, ou presque pas. Mais lui aussi, il va être pro-français, mais jamais il n'aura de mépris pour le monde germanique. Hein. Il n'a jamais traité de Bosch, comme tout le monde faisait à l'époque, etc. Donc c'était quelqu'un qui était pour la paix. Voilà, la paix entre les peuples. D'ailleurs, il était aussi, on va dire, obsédé par la liberté, l'égalité, etc. Et quand il était jeune, il a fait partie, donc au début du XXe siècle, il a fait partie de groupes, pas anarchistes, mais enfin disons assez libertaires, un peu des mauvais garçons, on les appelait les Apaches, hein, et il a fait partie donc de ces Apaches-là. Alors, il a toujours milité pour la liberté, et c'est bien pour ça qu'il a insisté sans doute sur ces paroles que l'écureuil et la rainette, c'est une grenouille, hein, se disent à la fin de L'Enfant et les Sortilèges. L'Enfant et les Sortilèges, c'est bien plus tard, hein, c'est 1925, mais ça fait rien. Ce texte de Colette, il l'a bien mis en valeur, et voilà ce qu'elle se raconte, ces deux bestioles, qui se retrouvent dans le jardin après avoir été martyrisées par l'enfant. Car l'enfant et les sortilèges, l'enfant est un vilain, qui tire la queue du chat, hein, qui tisonne l'écureuil, enfin bref, une sale bête quoi. Alors l'écureuil lui dit, parce qu'ils se retrouvent tous les deux dans le jardin comme ça, il dit à la grenouille, « Sauve-toi, saute !» Et la cage. La rainette, « Qu'est-ce que c'est ça ?»« La prison !»« La prison !»« Le fer qui pique entre deux barreaux !» J'ai pu fuir, mais les 4 petites mains mouillées ne valent pas les miennes. La rainette, qu'est-ce que tu dis? Je ne connais pas la cage. Je connais la mouche qu'on me jette. Elle saute, ploc. Et le chiffon rouge, ploc. La pavia, je bondis. On me prend, je m'échappe, je reviens. Sans cervelle, tu auras mon sort. La cage, c'était pour mieux admirer ta prestesse, dit l'enfant. Oui, c'était pour mes beaux yeux. Sais-tu ce qu'ils reflétaient, mes beaux yeux? Le ciel libre, le vent libre, mes libres frères, ou bon sûr comme un vol. Alors voilà donc ce dialogue un peu amusant, mais en même temps significatif pour le texte. L'écureuil est soprane. Ténor.
La prison, la prison, le fer qui pique contre deux barreaux. J'ai pu fuir, mais tes quatre petites mains mouillées ne volent pas les miennes. Que dis-tu? Je ne connais pas la cage. Je connais la mouche qu'on me jette et le chiffon rouge. La pavillane. Je bondis. On me prend. Je m'échappe, je reviens.
Sans cervelle, tu en as mon sort.
À l'enfant. Que vous avez entendu la différence qu'il y a entre, dans la manière de chanter. Au début, le dialogue entre la reinette et l'écureuil se fait sur le mode récitatif, hein, comme si on parlait. Et là, la seule phrase lyrique va être pour évoquer la liberté. Voilà, donc tout un programme musical, on peut dire. Donc, si vous voulez, voilà une effervescence artistique, dans les idées aussi, mais on l'a donc dit, un esprit revanchard, si vous voulez, et franco-français, hein, qui règne en France. Alors, c'est sans doute pour cela qu'il y a à cette époque un retour vers la musique française, si vous voulez, des siècles passés, c'est sûr, mais aussi il y a tout un courant de création de musique française mené par Camille Saint-Saëns, hein, qui s'intitule ce courant Ars Gallica, ce qui est donc bien significatif, et puis la création de nombreuses sociétés de musique qui vont jouer de la musique française, mais pas que, hein. Il y aura aussi, on jouera du Wagner, etc., parce qu'il y a, quand même, on connaît la valeur des musiciens allemands, hein, et c'est pas possible de faire autrement d'ailleurs, hein, donc il y a beaucoup de musiciens qui font, comme on dit, le pèlerinage à Bayreuth, hein, qui vont entendre du Wagner in situ, mais il y a quand même un nationalisme affiché, si vous voulez. Alors c'est un petit peu dans ce sens-là que Ravel va écrire justement une pièce pour piano, une œuvre pour piano qui s'appelle Le tombeau de Couperin. Alors, le tombeau de Couperin. Alors, Couperin, qui c'est Couperin? Couperin, c'est déjà un musicien de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle français, François Couperin. C'était une famille de musiciens. Il y avait un Louis Couperin qui était le tonton, hein, avant. Mais François Couperin, connu surtout pour ses pièces de clavecin, il a écrit, je crois que c'est 5 ou 6 livres de pièces de clavecin, qui comprennent des petites pièces à titre, comme par exemple l'entretien des muses, ou par exemple les TikTok Choc ou les Maillotins, etc., mais aussi des pièces à titre de danse, des danses de l'époque, cette fois-ci, hein, parce qu'on est dans une époque où il y a une adéquation totale entre la musique qui est fabriquée et la musique qui est écoutée. C'est-à-dire que les gens, les nobles font de la musique, ils apprennent à jouer du luth, de la guitare, etc., ou du clavecin, et puis les compositeurs composent des choses actuelles. Alors, les pièces de clavecin de Couperin, c'est Menuet, c'est Rigaudon, c'est Sarabande, etc. Donc, le tombeau de Couperin, de Ravel, qu'est-ce que c'est? C'est une série de danses, de pièces à titre de danse de l'époque de Couperin, et c'est un tombeau. Un tombeau, c'est, à la fin du XVIIe siècle en musique, un hommage à. Voilà. Et Couperin a écrit, par exemple, le tombeau de Monsieur de Blanc-Rocher. Non, c'est Marin Marais qui a écrit ça, je crois. Donc, si vous voulez, voilà, on écrit des pièces en l'honneur de... Et ça s'appelle donc un hommage. Alors, lui, Ravel, il va donc se retourner vers la musique française du grand siècle, si vous voulez, et il va écrire donc ce tombeau de Couperin en l'honneur de Couperin et de toute la musique française. Alors, c'est l'instrument du compositeur, hein, ce piano. Donc, entre 1914 et 1917, on va voir donc des pièces. Et ces pièces vont être toutes dédiées à des soldats qui vont mourir à la guerre. Voilà. Alors, le prélude, c'est au lieutenant Charlot. Le rigaudon, c'est à Pierre et Pascal Gaudin, etc. Le menuet, à Jean Dreyfus. Ah zut, j'ai pas parlé de lui. Effectivement, ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que Ravel était pro-Dreyfus. Il n'a jamais été dans le domaine de la haine et il a toujours, si vous voulez, milité pour ça aussi. Donc vous voyez, c'était pour montrer un aspect de son personnage. Alors donc, nous, on va écouter le Rigaudon pour piano, dans la version de piano cette fois-ci. Et quelques années après, enfin même en même pratiquement en même temps, Ravel va faire une orchestration de cette suite qui comprend donc un menuet, un Rigaudon, une forlane, et puis des pièces pour piano qui ont été abandonnées après. Alors on va écouter donc ce rigaudon, c'est une danse provençale, le rigaudon, hein, donc qui se dansait encore les campagnes à l'époque de Ravel, hein, et c'est une danse binaire, enfin donc à deux temps. Voilà, cette danse populaire va devenir danse de cour à l'époque de Couperin et de Louis XIV. Voilà, donc on va écouter le rigaudon et on va essayer de voir comment Ravel retrouve cet esprit de Couperin tout en étant moderne. C'est la première partie du rigaudon. On s'aperçoit, si vous voulez, que les sonorités employées au piano sont plutôt dans l'aigu. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Donc, si vous voulez, ça je pense, c'est pour rappeler un peu la sonorité du clavecin, qui est quand même une sonorité assez grêle et qui est plutôt, effectivement, médium aigu. Hein. Bon. Et puis, vous avez cet aspect un petit peu sautillant, si vous voulez, qui retrouve l'esprit du rigaudon. Et puis on va voir alors donc là que Ravel va adopter maintenant une structure d'ensemble du rigaudon, parce qu'on a entendu à peu près le tiers là. Hein. Donc il va adopter une structure d'ensemble qui est une structure qu'on emploie à l'époque pour les danses, les pièces d'origine dansée transcrites pour le clavecin. Hein, à l'époque de Couperin, c'est la coupe, c'est-à-dire la structure en trois parties, une première partie qu'on vient d'entendre, une deuxième partie différente, et ensuite une troisième partie qui va rappeler la première, qui va être la première. Hein. Donc en musique on dira grand A, grand B, grand A. Hein. Voilà, c'est donc la structure. Ensuite, vous avez sans doute remarqué aussi que dans cette partie, il y a beaucoup de redites. parce que dans les danses de l'époque de Couperin, il y avait beaucoup de reprises, c'est-à-dire beaucoup de redites, oui. Hein, c'est ce qu'on appelle les barres de reprise en musique, hein, avec des barres, avec des points, ça veut dire, allez, une deuxième fois. Alors, donc, voici maintenant la partie centrale, et on va voir, elle est en rupture avec ce qu'on vient d'entendre, elle est beaucoup plus lyrique, beaucoup plus chantante, ça correspondrait à un rigaudon numéro 2, si on était chez Couperin, il appellerait pas ça la partie 2, mais il dirait rigaudon numéro 2 en mode mineur, par exemple. Là, on vient d'entendre en mode majeur, en mode mineur. Alors là, Ravel, il reprend l'idée, hein, on a une première partie donc assez sautillante et très marquée rythmiquement, et là, on va avoir une deuxième partie très différente, lyrique. Je fais un petit tout petit arrêt, excusez-moi, parce que j'ai oublié de vous dire une chose. Remarquez aussi que sur certaines notes, vous avez comme des tremblements. Alors ces petits machins-là qu'il reprend, c'est vraiment l'écriture de clavecin. Dans l'écriture d'un clavecin, on a plein de petits ornements comme ça, parce que le clavecin, d'une part, imitait les chanteurs, et deuxièmement, remplissait le son, parce que le son du clavecin ne tient pas. Et retour à la partie A. Hein. Mais bon, cette visite de la partie centrale du rigaudon nous a permis aussi d'apprécier tout le lyrisme ravelien. Hein. Ça n'est pas quelqu'un qui est uniquement précis et un bon faiseur, mais c'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau, hein, et qui laisse transparaître de temps en temps. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que avant la guerre de 14, c'était nouer une alliance entre la France et la Russie, qui était donc assez étroite sur le plan politique, hein, et ça explique sans doute les allées et venues des artistes dans les deux sens, et il y a eu beaucoup d'artistes russes qui sont dus s'établir à Paris, ou tout du moins qui ont fait des séjours prolongés. En musique, bien sûr, on pense à Prokofiev et Stravinsky, surtout, hein, qui ont fait des carrières parisiennes. Alors, ces Russes, si vous voulez, il y a aussi des troupes de ballet russes qui viennent et qui sont fort réputées, parce que la danse en Russie avait déjà atteint un niveau d'excellence assez exceptionnel, notamment à la fin du 19e siècle. Ah, on va faire une petite parenthèse et chanter Cocorico, parce que en fait, si la danse a tellement pris, si vous voulez, en Russie, c'est parce que dès le début du 19e siècle, vous avez des chorégraphes, des maîtres de ballet français qui vont s'établir à Saint-Pétersbourg, comme Saint-Léon, par exemple, et puis ensuite, quelqu'un qui porte bien son nom, Marius Petipas, voilà, qui a travaillé beaucoup avec Tchaïkovski. Maintenant, on a bien un Benjamin Millepied, donc on ne sort pas de la chose. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est en plus de ça, il y a eu un effet de hasard, peut-être, mais il y avait un type extraordinaire qui avait une vision des arts de son époque assez extraordinaire, c'est Serge de Diaghilev. Serge de Diaghilev va monter une troupe de ballet exceptionnelle avec des danseurs fabuleux. Le plus connu, c'est Nijinsky, bien sûr, avec la fameuse Karsavina, qui était donc une étoile aussi, mais ça n'a pas été les seuls. Et ils sont venus faire des saisons de ballet à Paris dès 1909. Cette troupe va faire parfois scandale, le scandale du sacre en 1913, bien sûr, mais en ce qui nous concerne, nous, donc on l'a dit au début, Ravel va travailler une fois avec eux, hein, une fois, la deuxième fois ça n'aboutira pas, ce sera la valse, ça marchera pas. Bon, mais disons que cette Daphnis, si vous voulez, est un grand succès. Hein. Moi, je vous propose, pour le plaisir de l'orchestration de et puis du tableau de la nature assez extraordinaire, il y en a deux chez Ravel, deux tableaux de la nature extraordinaires, c'est dans L'Enfant et les Sortilèges et dans Daphnis, le fameux lever du jour, qui est... ça laisse sans voix, quoi. Hein. Bien sûr, on y entend les oiseaux, mais on entend cette éclosion de la nature, on l'entend. Là, on a l'impression de respirer, quoi. Thème qui commence à paraître grave. C'est intéressant aussi quand on écoute ce thème parce que on y reconnaît vraiment la mélodie à la Ravel. Vous savez, par exemple, ta ti ta ta. Alors là, il y a deux intervalles qui sont caractéristiques de ces mélodies. Ta ti ta ti ta. Mais surtout ta ta. La quarte descendante, la quarte montante, la quarte descendante, c'est vraiment des choses qu'on trouve partout dans la mélodie de Ravel. Tout le temps, la quinte, si vous voulez, qui sont un petit peu plus, des intervalles plus âpres, plus, beaucoup moins romantiques, entre guillemets, que la tierce, qui est plus douce, ou la sixte, si vous voulez, qui est très employée par Brahms, par exemple. Hein. Mais chez Ravel, non, ça va être la quarte, les intervalles, la quarte, les accords à base de quarte, des choses comme ça. Donc plus que, j'allais dire plus crissant, mais en même temps plus net quelque part. Il n'y a plus ces affects romantiques, si vous voulez. Voilà, c'est donc ce tout petit exemple. Alors donc maintenant, on va s'apercevoir quand on regarde donc les titres des pièces pour piano, hein, ou pour orchestre, on va s'apercevoir qu'on peut faire le tour de l'histoire de la danse chez Ravel. Alors on peut commencer, par exemple, par le XVIe siècle. On peut commencer par la pavane. La pavane est une danse noble de cour du XVIe siècle français. Oui, on ne sait pas bien l'origine. On disait peut-être que c'est d'origine espagnole. Enfin bref, il y en a eu dans toute l'Europe à l'époque. Mais là, il s'agit de la pavane de la Belle au bois dormant. Alors je suis désolée, l'heure ne s'y prête pas. Si, c'est la sieste. Mais disons que là, bien sûr, on va avoir un tempo lent, mais ça tombe bien parce que la pavane, de toute façon, c'est une danse lente. Alors ici, donc, cette pavane de la Belle au bois dormant, elle fait partie d'une suite écrite pour piano quatre mains. et qui cite des contes, les contes de Perrault, les contes de Madame d'Aulnoy, par exemple, comme l'Aidronette impératrice des pagodes, ou La Belle et la Bête, vous voyez, La Belle au bois dormant, enfin tout ça. Donc, ça touche au monde de l'enfance. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un peu impensif, mais je suis quand même un peu obligée de le dire aussi. Ravel a beaucoup, s'est beaucoup intéressé au monde de l'enfance. Mais c'est pas parce qu'il a écrit des pièces pour les enfants, hein, c'est plutôt la vision d'un adulte sur l'enfance, hein, je dirais, mais parfois avec une petite plongée dans le milieu enfantin. Alors ici, cette belle au bois dormant, bon, il s'agit d'un souvenir, hein, un conte. Un conte, c'est quelque chose qui sort du réel, bien sûr, et qui est comme une histoire un petit peu passée, vous voyez, comme quelque chose d'un peu, pas flou comme ça, mais un peu grisé, quoi. Donc ici, on va avoir une économie de moyens assez extraordinaire. Vous avez vraiment très, 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 très peu de choses, une ligne mélodique à la flûte, un petit accompagnement tout discret, etc. Et tout ça donne une élégance absolument fabuleuse. Alors, on va écouter donc cette pavane de La Belle au bois dormant. J'essaie de ne pas me tromper dans mes manipulations. Voilà, ça va être ça. Pas beaucoup insister sur la technique musicale, mais évidemment, pour évoquer l'ancien, on utilise en musique des gammes qui ne sont pas les gammes de tous les jours, hein. On utilise ce qu'on appelle des modes, c'est-à-dire des gammes où les degrés n'ont pas la même place. Et là, on a un bon exemple à la fin, par exemple, quand on entend et non pas qui est notre manière, on va dire, plus habituelle. Et là, chante faux, décidément. C'est-à-dire que là, on supprime, si vous voulez, l'attraction qu'il y a entre l'avant-dernière note de la gamme et la gamme. Ce qu'on appelle la sensible, elle n'est plus sensible, quoi. Et ça donne cette impression d'ancienneté, parce que c'est comme ça qu'on faisait, supposait-on, au Moyen-Âge. Hein, voilà, on ne faisait pas tout le temps, d'ailleurs, mais allez, là, il ne s'agit pas de faire une œuvre musicologique. Hein, il s'agit d'évoquer, si vous voulez, de se servir de la perception du spectateur pour évoquer. Alors, donc, après la pavane, 16e siècle, on peut avancer un peu plus vers nous, et on peut aller vers le menuet. Alors, le menuet, là, je vais revenir un petit peu, pour, comme exemple, à celui du tombeau de Couperin, dont on a parlé tout à l'heure, dont je ne vais pas réexpliquer ce que c'est que le tombeau et Couperin non plus, d'ailleurs. Simplement, là, dans ce menuet, vous allez avoir, donc, toujours les ornements évoqués, hein. Tiri, ta, di, 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 di. Etc., des petits mordants, hein, du clavecin. Et puis, bien sûr, il va retrouver l'esprit de la danse de cour, parce que le menuet a toujours été une danse de cour, en revanche. Hein, donc, avec élégance, à trois temps, donc un petit appui sur le premier temps. Là, il va reprendre encore la structure qu'on a évoquée pour le rigodon tout à l'heure, c'est-à-dire tripartite, menuet, un centre et le menuet. On verra que là, il y a un effet d'écriture intéressant. Donc, on va déjà écouter la partie A. Je vous rassure, c'est tout court, tout ça. Voilà. Alors, donc, Menuet du tombeau, toujours l'acidité des solos de bois. Donc voilà cette première partie, vous avez entendu sur le plan mélodique beaucoup de reprises du thème, hein, on a entendu beaucoup les mêmes fois les mêmes phrases, ça procède de la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure pour le Rigaudon. Dans les danses de l'époque, il y avait beaucoup de redites, mais vous remarquez que Ravel ne les orchestre jamais de la même façon, bien sûr, hein. Donc ici, on a une évocation, on a une... Mais c'est pas une redite, hein, c'est une recréation qu'il fait du Menuet à partir d'idées anciennes. Lui, il s'amuse à recréer une atmosphère qui nous évoque l'ancien temps. C'est pas un musicologue, hein, et c'est pas un copieur non plus. Il recrée chaque fois, et on voit ça chez les peintres aussi, hein, quand on regarde que Picasso a peint les Ménines. Il n'a pas refait le tableau de Velázquez, hein, il a réinventé quelque chose. Tout ça, c'est un peu normal, mais si vous voulez, chez Ravel, il y a un aspect jeu en même temps, un aspect volontairement, je m'amuse avec ça, quoi. Voilà. Et maintenant, donc, on a la partie numéro 2 du Menuet, qui est intéressante parce qu'elle évoque une autre chose qu'on voyait dans les danses, qu'on voit chez Rameau d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les musettes. Parce qu'il y a eu, au début du XVIIIe siècle, un instrument qui était devenu un instrument de cour, c'était la cornemuse. C'était plus seulement le ouin-ouin du Morvan, hein, c'était aussi... Il y avait des cornemuses avec des sacs ornés de pierreries, de dorures et de machins. Et puis, à la cour, hein, on jouait de ces trucs-là. Alors, vous savez que dans la musette, vous avez des tubes qui sonnent avec toujours les mêmes notes. C'est ce qu'on appelle des bourdons. Alors, et puis dessus il y a la petite mélodie comme ça. Donc ici il va imiter la musette en effaçant les sonorités un petit peu. Vous avez des sourdines aux instruments par exemple, et vous avez donc des notes qui restent à la fin, imitation de la musette pour la partie centrale du Menuet. Même les sonorités qui sont pouet-pouet un peu, hein. Crescendo à la Ravel, comme le lever du jour. Je me permets. permettre de faire encore une coupure parce que vous sentez que ça ramène quelque chose. Ça va ramener le menuet, bien sûr. Mais là, attention, cling, toutes les oreilles dehors parce qu'on va entendre les deux thèmes à la fois. Celui de la musette plus celui du menuet. Donc là, clac, j'y arrive. Je m'amuse à faire ça, je le fais. C'est fini. Menuet lyrique avec cordes. Dernier sourire. Hop, on bifurque. Sort du menuet complètement vers le rêve. Dernière fois le thème du menuet. Et dernier accord, attention. Jazzy. Hein, voilà, presque, pratiquement. Voilà. Donc, alors, on quitte le 18e. On arrive vers le 19e et évidemment, la danse du 19e, c'est la valse, bien sûr. Alors, Ravel va donc composer d'après des pièces pour piano qu'il avait appelées « valse noble et sentimentale ». Et vous allez voir encore que là, il est coquin comme je ne sais quoi. Il a composé ça en 1911 et il a composé ça, paraît-il, à la manière des valses de Schubert. Alors quand on écoute ça, si on ne sait pas ça, alors on l'aurait jamais deviné, hein, parce que c'est tout sauf du Schubert. Mais je pense que c'est encore là une farce entre guillemets de quelqu'un qui aime bien brouiller les pistes, qui aime bien aussi se donner des objectifs un peu compliqués, si vous voulez. Et voilà par exemple ce que ça peut donner, une valse noble et sentimentale à la manière de Schubert. Non, c'est pas le nom. Excusez-moi, je me suis trompée de CD. Ça, c'est moi, ça. Bon, oui, c'est ça. C'était deux. Voilà. Attendez, non, c'est peut-être plus l'autre est mieux. Finalement, je crois que c'est mieux ça. Thank you. pas très romantique tout ça. Donc effectivement, si vous voulez, là on a un bon exemple de l'évolution de l'écriture de Ravel, hein, qui devient une écriture incisive, très nette comme ça, avec une harmonie très contemporaine, hein, pour l'époque. Donc vous voyez, il s'agit pas là d'un copieur, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, alors la pièce la plus représentative, c'est moi qui fais ça, oui peut-être, non? La représentative de la valse, c'est celle qui s'appelle La Valse et qui a été au départ une commande des ballets russes. Dès 1906, Serge de Diaghilev avait commandé donc ça à Ravel, et puis finalement ça n'aboutira pas pour les ballets russes, ce sera dansé par une autre compagnie bien longtemps après. Alors, il faut dire que Ravel avait beaucoup traîné avant de se mettre au boulot. Ça l'inspirait pas plus que ça, sans doute. Et ce sera pour, finalement, la grande danseuse Ida Rubinstein qui dansera cette valse en 1929. Alors, vous voyez, donc, hein, ça a demandé un certain temps pour arriver à être abouti, en quelque sorte. Alors, c'est intitulé poème chorégraphique. Et dans ce poème chorégraphique, donc, on va avoir l'évocation du mouvement de la valse. Là, on l'avait déjà eu aussi, le trois temps, évidemment. Et il y a une histoire dans ce poème chorégraphique. On ne va pas tout écouter, évidemment, ça dure assez longtemps. Mais vous avez plusieurs épisodes. D'abord, une évocation des rumeurs d'une salle de bal dans le lointain. Et petit à petit, de cette rumeur sort des bribes du rythme à trois temps, et après le thème va s'affirmer. Des petits éclats de vent comme ça, mais discrets. La valse, c'est romantique, la valse viennoise, ce sont les cordes. Le thème va apparaître aux cordes. Puis après, il est éclaté. Des relents de valse viennoise, mais revisité. On connaît des fins de phrases de valse viennoise assez fou. Hein. Ça aussi. Il y a même les ralentis langoureux, etc. Mais c'est pas clair tout ça. Hein. Petit à petit, cette espèce de tourbillon va évoluer vers quelque chose d'un peu féroce. Que se passe-t-il dans cette salle de bal? la tranquilliser. Elle revient. Mais on a l'impression que cette valse lutte contre des forces mauvaises, hein, qui envahissent petit à petit la scène. Et le thème revient, mais il est assombri, on ne sait plus trop où on en est. On a l'impression que le mouvement se précipite, s'emballe. Sonorité, ça part de tous les côtés. Et à la fin, c'est complètement du délire. Hein. On a l'impression que la valse n'existe plus. Elle est complètement mangée. Ça s'emballe complètement. On ne sait plus où on en est. Et ça se termine dans une espèce de foutoir, excusez-moi, mais absolument incroyable. Les sonorités, l'harmonie est complètement acide, vilain. Enfin, c'est très curieux, quoi. Et donc une valse féroce, on pourrait dire, ça se termine de cette façon-là. Alors donc voilà pour le tour, on va dire, historique du XVIe siècle au XIXe. Et puis, ce qu'on voit aussi dans l'œuvre de Ravel, c'est un grand intérêt pour tout ce qui est exotique. Il s'est intéressé à la musique grecque, il a composé des chansons populaires grecques, il a même fait une pièce basque, Zaspiak Bat. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, hein, parce que le basque, c'est particulier quand même. Donc voilà, il a écrit Scheherazade, évocation de l'Orient. Il a écrit les chansons Madécas, c'est-à-dire de Madagascar. Enfin bref, il s'est intéressé un petit peu au folklore, si vous voulez, exotique. Mais il a suivi aussi la mode de son temps, celle de s'intéresser à l'Espagne. Bon, évidemment, depuis Bizet et même avant, vous avez un intérêt pour ce pays et pour le rythme de ses danses, bien sûr. Hein, toutes les provinces espagnoles ont une danse. Et puis, les gammes particulières de cette musique, etc. Bon, Bizet, qui n'était jamais allé en Espagne, hein, il a quand même bûché des bouquins, il a regardé des trucs de folklore espagnol et il a écrit donc Carmen avec ça. Alors, effectivement, puisqu'on parle de Carmen, on pense tout de suite à la Habanera de Carmen. Je vais pas vous faire entendre ça. Mais simplement, je vais, c'est mieux comme ça, je vais vous faire entendre une Habanera de Ravel. Alors, Ravel en a écrit une pour deux pianos, je crois que c'est ou quatre mains, je sais plus, dans les années 1898, je crois. Mais là, nous allons entendre une pièce pour voix. C'est une vocalise étude en forme de habanera. Alors, la habanera, c'est donc une danse havanaise. Habanera, vous avez compris d'où ça vient. Ça vient de Cuba, en principe, de la Havane. Et comme toutes les danses, elle repose sur un rythme particulier. Alors, ce rythme, c'est tara, taran, tan, tari, ta, ta, ta. Ou ça peut être tara, pa, 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 tara, pa, pa, pa. Tara-pa-pa ou ta-tira-pa-pa, ça c'est Carmen, tara-pa-pa, l'amour est un enfant, etc. Bon, donc voici donc cette vocalise en forme de habanera. Donc vocalise étude, ça veut dire que c'est une pièce pour montrer les possibilités, enfin, celles qu'essaye d'atteindre un chanteur. Hein. C'est donc pour le faire progresser. Donc ça veut dire que c'est virtuose. Hein, voilà. Donc ici, ça va être une pièce virtuose, mais on entend très très bien le rythme de cette habanera ou havanaise, comme vous voulez. Donc, pour voix de soprane. Enfin, moyen, je crois que c'est mezzo-soprano. Ah oui, c'est trop près. Merci. Ben, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez. Ah oui, j'en ai loupé un bout. Youk. Voilà. Dans l'introduction d'orchestre, on entend le rythme la habanera. Introduction. Vous avez bien sûr remarqué ces glissements dans la voix, etc., cette mélodie ondoyante, sensuelle, hein, bien sûr, parce qu'on imagine que sous cette chaleur étouffante de l'été espagnol, on éprouve des langueurs insoupçonnées, n'est-ce pas? Donc, justement, pour évoquer ces nuits torrides de l'Espagne, torride sur le plan de la chaleur, bien sûr. Je veux dire, bien sûr, Ravel va écrire une suite pour orchestre assez admirable qui s'appelle Rhapsodie espagnole. Alors, Rhapsodie espagnole, dans le terme rhapsodie en musique, si vous voulez, il faut entendre quelque chose d'assez libre sur le plan structurel et avec un aspect plus senti que rigoureux sur le plan formel. Hein, voilà. Donc, il y a quatre pièces. La première est une admirable introduction avec... Je résiste pas. Hein, je vais vous faire entendre quelques mesures parce que vraiment, là, vous avez une atmosphère nocturne qui se dégage de ça avec des moyens extrêmement simples. Il y a quatre notes. Mais ces quatre notes... Ta, di, te, do. Tout de suite, on est dans un truc un peu refermé, comme ça, un peu sombre. Tout de suite, avec les sonorités voilées. Vous ce thème reviendra dans certaines pièces qui vont suivre. Hein. On entend ça en boucle, hein, mais en fait, chaque fois avec des timbres différents, sourdines, pas sourdines. Voilà. Mais moi, je vais faire entendre la pièce numéro 2, qui est la Malagueña. La Malagueña est une danse d'originaire de Malaga, vous auriez deviné. C'est une... on l'appelle aussi parfois fandango. C'est une danse qui fait ça comme rythme. Ya pa 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 para pam pa 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 pa. Ya pa pa pam para pam pa 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 pa. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc vous allez avoir une introduction là, avec les flûtes comme des rubans, et après on entendra donc le rythme de cette danse malagueña. Toujours le rythme en beats. Je pense que dans le solo de trompette là, qu'on vient d'entendre, il y a un hommage à Espagna Chabrier. Hein, parce que Ravel aimait beaucoup Chabrier, il a orchestré certaines de ses pièces, etc. Donc c'est tout. Mais vous avez dans cette Malagueña, si vous voulez, à la fois le rythme impétueux et vous avez des instants langoureux, justement, qui sont d'une sensualité assez étonnante. Hein. Voilà par exemple. Clin d'œil à la musique espagnole avec leur tortillon final, hein, tali, à la fin, c'est tout à fait ça. Le cor anglais, en plus, a la sonorité qu'il faut pour évoquer ce mystère. Vous entendez le thème du prélude qui revient là. Bien sûr, on parle de l'Espagne, bien sûr, il faut évoquer le fameux boléro, hein, la pièce la plus jouée dans le monde, à ce qu'il paraît. Donc, le boléro, c'est une danse, là aussi, hein, qui est d'origine andalouse et qui est bâtie sur un rythme à trois temps. Ravel va bien s'en souvenir, hein, puisque la caisse claire a un rôle unique d'un bout à l'autre des 15 minutes que dure le boléro, c'est de faire toujours la même chose. Hein. On va voir donc le rythme. Yam papapam papapam pam pam papapam papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap avec ses petits triolets là. Alors, ce ballet, alors il a été commandé par Ida Rubinstein, bien sûr, et il va être donné donc en 1928 sur une chorégraphie de la sœur de Nijinsky, le fameux danseur russe qui s'appelait Bronisława Nijinska, qui était chorégraphe. Et donc voilà ce que ça va donner. Alors ça a été un scandale épouvantable parce que c'est une pièce extrêmement répétitive. Mais Ravel l'a fait exprès, hein. C'est pas parce qu'il savait pas faire autre chose, hein. Il a mis seulement deux phrases. Il y a deux thèmes, si vous voulez, deux thèmes mélodiques qui vont passer à tous les instruments de l'orchestre dans un phénomène de crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on a un solo, Puis après, on a un autre instrument solo, dont des instruments qu'on ne voit pas souvent dans l'orchestre, des saxophones, par exemple. Hein. Voilà. Et puis, petit à petit, l'orchestre s'étoffe. Et puis, on a toujours la répétition de la même chose. Les gens se sont dit, mais c'est pas possible, il nous prend pour des fous. Hein. Mais oui, il a bien fait, non pas de prendre les gens pour des fous, mais il a voulu donner à cette danse un côté hypnotique, si vous voulez. Elle a parfaitement réussi, hein, c'est sûr. Et à la fin, à l'extrême fin, tchoc, il y a une cassure, on va changer de tonalité. Alors que tout était dans le même ton depuis le début. Tout d'un coup, au moment où tout le monde s'endormait, il y a un magnifique accord de la majeure. Bon, donc on va écouter quand même un petit peu. Je vais vous faire entendre au moins les deux thèmes. Hein. Voilà. Alors le premier thème, donc, c'est le thème qui est donné tout de suite. Thème 1. Sur ce rythme obstiné, hein, vous avez justement des effets de souplesse rythmique, hein, parce qu'il y a des liaisons, des syncopes, des machins. Donc déjà la forme de la mélodie est serpentine, et là en plus de ça, vous avez une souplesse rythmique qui contraste avec la base. Ça, c'est une ritournelle, reprise du thème, ça n'est que le début. Alors, on va retrouver la ritournelle. Qui est très joli parce que vous allez entendre, il y a des petits beats de harpe dessus. On entend un peu la harpe. Oh là là, ah, celui-là il a dû serrer un peu les fesses, ça c'est le basson qui arrive dans l'aigu. Alors, il n'a pas encore joué et clac, il a le thème 2. Ça va donc alterner en épaississant. Là, on a eu d'abord les bois, puis ensuite, on va avoir plutôt les cuivres qui vont s'ajouter petit à petit, hein, et puis ensuite, après, tout l'orchestre. Et puis bon, ça va se terminer dans un fracas donc surprenant, hein, on va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, il faut aussi signaler que, enfin, vous avez vu que par son écriture, Ravel est un homme de son temps, mais il est aussi sensible aux danses qui viennent d'ailleurs, hein, qui viennent, et à l'époque, ce qu'on découvre en Europe, ce qu'on découvre, c'est le jazz. On découvre le jazz, par exemple, Ravel n'est pas le seul à l'avoir découvert, hein. Vous avez par exemple Debussy, il a fait plusieurs allusions à ça, notamment dans Minstrels. Minstrels, c'était dans les préludes, c'est une pièce de piano dans laquelle il évoque les danseurs blancs qui se grimaient en noir. Hein, voilà. Et puis, vous avez bien sûr le Children's Corner, les pièces qu'il a écrites pour sa fille, du coin des enfants. Et dedans, il y a Gollywog's Cakewalk, c'est-à-dire le cakewalk qui est une danse pour le pantin, Gollywog. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Et Ravel va émailler d'accent jazz si vous voulez, certaines de ses pièces. Alors vous avez notamment le concerto en sol qu'il a composé à la fin de sa vie. Le pauvre, il était déjà bien malade, hein, puisque il a eu, on va un petit peu faire notre France dimanche là, mais il a eu à partir de 1920 une attaque insidieuse cérébrale, hein, qui lui ôtait certains, enfin, le gênait pour certains gestes. Et puis après, cette attaque cérébrale, c'était irrémédiable, ça amplifiait, etc. Il avait du mal à marcher, il avait du mal à bouger. Après, bon, on a essayé de l'opérer en 1937, mais c'était une opération fatale, hein. Il est resté après quasiment dans le coma et il est mort tout de suite après son opération. Donc voilà. Et donc cette, si vous voulez, donc je dis Ravel dans le concerto en sol, oui, par exemple. Et puis dans la fameuse, la seule et unique sonate pour piano et violon, vous avez un deuxième mouvement qui s'appelle blues. C'est assez extraordinaire parce que donc piano violon, deux instruments on ne peut plus classiques, qui vont imiter la manière de jouer des jazzmen, le piano. Pardon, c'est le violon, excusez-moi. Qu'est-ce qui imite le violon ? Le banjo. Le piano ? Ben, lui, il fait la basse rythmique. Le violon imite quoi ? Le sax. C'est une imitation, une recréation, si vous voulez, assez extraordinaire. Alors évidemment, l'évocation la plus réussie, la plus probante du monde du jazz, c'est dans L'Enfant et les Sortilèges que l'on la trouve. Donc L'Enfant et les Sortilèges, mini-opéra baptisé Fantaisie lyrique sur un texte de Colette, donné en 1925, et donc ce petit opéra met en scène un enfant capricieux qui dans une crise de colère, de caprice, va déchirer sa tapisserie de la chambre, va casser la théière que sa maman lui a portée pour son goûter, renverse la tasse, etc. Et c'est justement dans ce dialogue entre la théière et la tasse que l'on trouve le plus bel exemple de jazz ravelien. Là, la théière, il faut bien le dire, était costumée en un boxeur anglais, avec, vous savez, des moustaches, là, comme ça, les caleçons rayés, n'est-ce pas, et des grongans. Bon. Et la tasse, c'est bien sûr une chinoise distinguée. Alors, on a donc un ténor et une soprane. Le texte de Colette est ravissant. How's your mug? Dit la théière. Comment vous sentez-vous? Je crois que c'est à peu près ça. La tasse. Rotten. Ça va pas du tout. Better and common. Black and costaud, black and chic. Jolly fellow. Jolly fellow. I punch you, sir. I punch your nose. I knock out you. I knock out you, stupid Jews. Black and thick and very bogus. I box you, I marmalade you. Vous avez compris, je ne veux pas vous traduire quand même. Voilà, donc ce boxeur va chanter sur un rythme de cakewalk. Et bien sûr, là, on va avoir tous les instruments du jazz. le trombone, la percue, etc. Et donc, on a une évocation absolument délicieuse avec ce ténor qui chante la théière.
How's your Merck?
Rotten.
Ça, c'est...
Better add.
Come on.
Black I tossed a black I cheek, black, 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 jolly fellow, jolly fellow, black. I punch sir. I punch your nose.
Je pense qu'on entend même le washboard, c'est-à-dire la planche à laver, vous savez, vous avez des... On racle dessus avec des comment on appelle ça, des dés, voilà, des dés en fer, voilà. Et bien sûr, on va quand même entendre un petit peu la tasse parce que c'est trop rigolo. Hein. C'est une chinoise qui chante en mode pentatonique, c'est-à-dire avec la gamme chinoise, évidemment. Et là, Ravel, qui dans cette pièce ne prend pas ça seulement pour raconter une histoire drôle, enfin et morale d'ailleurs, avec l'enfant, parce qu'il va, se repentir après, etc. Donc, il en profite pour faire un tour d'horizon de tout ce qui se passait à l'époque sur le plan musical, vocal. Alors, on entend là, la tasse chanter comme un chanteur japonais à la mode de l'époque, qui s'appelait Seisu Ayakawa.
Ach, I knock out you stupid Joes, black, black, and thick, and flame or goss, and flame or goss. I bought you, I marmalade you.
Toujours l'air chinois. Et des claquettes. D'opéra. Alors, ce qu'on n'entend pas à la fin, c'est « qu'est-ce que t'as foutu de ton kawa ?» Voilà, Colette, délicieux. Alors donc, si vous voulez, bon, vous voyez, les exemples sont nombreux de la danse chez Ravel, hein, mais même quand il n'y a pas des pièces qui sont volontairement reliées à ce mode d'expression, vous avez un sens du mouvement, un sens du rythme assez extraordinaire, hein, avec, je dirais, des moyens astucieux et souvent assez... évident, assez simple on dirait, mais bon ça c'est un petit peu tout l'art du génie, hein. C'est de faire comme si tout était facile en fait. Et par exemple, quand on regarde, quand on écoute, le deuxième mouvement du Quatuor de Ravel, le seul qu'il ait composé d'ailleurs avec grand scandale encore une fois, pour le prix de Rome il ne l'a pas eu, hein. On a dit, les gens ont dit mais c'est épouvantable ce qu'il nous a fait là, non du tout. Donc on va écouter quelques mesures de ce deuxième mouvement. Il possède un sens du rythme uniquement avec des pizzicati. Alors les pizzas restent en partie. martelé comme un obstiné, hein, comme dans le boléro, si vous voulez, tout à l'heure. Dedans, simplement comme ça. Alors donc, j'ai essayé, si vous voulez, de vous montrer à travers mes exemples aussi un peu le style ravelien, qui est quand même un style d'une élégance et d'une clarté assez exceptionnelle. Et finalement, cette simplicité recherchée, feinte même, hein, parce que chez Ravel, il y a toujours cet aspect gageur, jeu, hein, intellectuel quelque part et musical qui cache une sensibilité vraiment à fleur de peau. Hein. Bon, eh bien, si vous voulez, ce langage finalement simple touche un peu à l'universel en quelque sorte, hein, et c'est pour ça qu'il nous touche toujours autant. Mais Ravel ne manquait pas d'humour, hein, et il a su le montrer dans une dernière pièce que je vais vous faire écouter, qui est une pièce à titre de danse, mais cette fois-ci à danse populaire. Nous allons retourner chez les enfants, que nous sommes toujours restés dans un coin de notre cœur, n'est-ce pas, pour parler comme le journaliste de nos deux confidences. Donc ça s'appelle Ronde. Ce sont d'abord pour les jeunes filles, que nous sommes restées quelque part. N'allez pas au bois d'Ormonde, jeunes filles, n'allez pas au bois. Il y a plein de satyres, de centaures, de malins sorciers, de farfadets et des incubes, des ogres, des lutins, des faunes, des follets, des lamis, diables, diablos, diablotins, des chèvres-pieds, des gnomes, des démons, des loups-garous, des elfes, des myrmidons, des enchanteurs et des mages, des striges, des sylphes, des moines bourrus, oula, même ça, des cyclopes, des djinns, gobelins, corrigans, nécromants, kobolds. Ah ! Ensuite, c'est pour les messieurs. N'allez pas au bois d'Ormonde, jeune garçon. N'allez pas au bois, il y a plein de faunesses, de bacchantes et de malefées, de satyresses, des ogresses et des babayagas, des centauresses et des diablesses, des goules sortant du sabbat, des farfadets et des démones, des larves, des nymphes, des myrmidones, amadriades, dryades, naïades, ménades, tiades, follettes, lémures, gnomides, succubes, gorgones, gobelins. Ah ! Et ensuite, c'est pour nous, les personnes un peu plus seniors. N'irons plus au bois d'Ormonde, hélas, plus jamais n'irons au bois. Il n'y a plus de satyres, plus de nymphes et de malefées. Il n'y a plus rien, quoi. Attendez, la suite, c'est quoi? J'ai oublié, moi. Enfin, bon. Plus de farfadets, plus d'incubes, plus d'ogres, de lutins, de faunes, de follets, de lamis. Diables, diablos et diablotins, de chèvres-pieds, de gnomes, de démons, de loups-garous, ni d'elfes, de myrmidons, plus d'enchanteurs, ni de mages, de striges, de sylphes, de moines bourrus, de cyclopes, de djinns, de diablotos, des fris, des gypans, des guipans, de sylvains, gobelins, corrigans, nécromants, kobolds. N'allez pas au bois d'Ormonde. Les malavisés vieilles, les malavisés vieux, les ont effarouchés. Alors voici Ronde. Les paroles sont de Ravel. Alors voici Ronde. Donc c'est a cappella, hein, un chœur. Donc dans le premier, on entend plutôt les filles, bien sûr. Dans le deuxième, on entend plutôt les garçons, puis après on entend tout le monde. Messieurs, Si vous voulez, mais on garantit rien du tout. Voilà. Merci.
Merci Madame Farinck. Donc vous avez écouté de la musique et vous avez vu la musique. Non mais bravo parce que votre expressivité est absolument sensationnelle et elle fait vivre votre discours. Hein. Donc tous les absents, comme d'habitude, ont toujours tort. Hein. Et donc on va se régaler à nouveau le plus longtemps possible avec vous. Merci encore de nous être fidèles. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser?
C'était Ravel et la guerre. Je voulais vous en parler puisqu'on est un petit peu dans le sujet aussi. Donc Ravel, si vous voulez, lui, quand la guerre a éclaté, il voulait absolument aller la faire, mais il avait déjà été réformé. Auparavant, parce qu'il est quand même âgé à cette époque, enfin, il n'avait plus l'âge d'être enrôlé, si vous voulez, il n'avait plus 20 ans. Donc, il avait été réformé parce qu'il faisait 2 kilos de moins que le kilo requis, c'était une petite chose, hein. Et il était petit, donc on n'avait pas voulu de lui. Et en 14, il a essayé de passer par-dessus ça pour essayer de partir quand même, parce qu'il voulait combattre pour son pays. Alors, il a fait des pieds et des mains, il a passé un deuxième conseil de révision. Alors finalement, comme il était tellement tenace, je vous passe les détails, on l'a mis dans le train et il conduisait des énormes camions. Alors il paraît que c'était très drôle de le voir, vous voyez un camion passer puis quasiment personne au volant. Et il a été plutôt sur l'arrière, vous voyez, il a été quand même à Verdun, je crois, faire donc les transports, puisqu'il conduisait ses camions. Mais voilà, il a finalement arrêté d'être en guerre, enfin il est reparti du front en 1916. Voilà, c'était pour l'histoire de la guerre. Donc, vous voyez, il voulait absolument être relais, mais il était trop petit et trop léger.
Voulez-vous poser des questions ou une question? Moi, j'ai une question à poser. Donc, voilà. En dehors des scandales de Boléro et ceux que vous avez signalés, comment, sur la distance, enfin, à courte distance, comment il a été perçu? C'est-à-dire, par exemple, Boléro, évidemment, la première fois, l'effet de surprise a été très fort, et donc, c'est ce que vous avez dit, le scandale. Est-ce que ça a perduré, ou est-ce que tout de suite, ça s'est réinversé?
De son vivant, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a quand même été reconnu. Il n'a pas été vilipendé complètement. Bien sûr, il y a eu quelques nonos, hein, entre guillemets. Le Quatuor a été le premier, mais ça, c'est quand il a passé le prix de Rome 3 fois, puis il ne l'a jamais eu. Parce que le jury ne comprenait pas bien ce qu'il faisait, en fait. C'était un petit peu quelque chose comme ça. Mais après, non, il a eu un certain succès, mais il faut dire qu'il était très introduit dans les milieux artistiques. Il était quand même lié avec beaucoup d'artistes. Il y avait surtout, enfin, des gens qui étaient des interprètes, des pianistes, par exemple Ricardo Vignès, etc. Et il était reconnu comme un maître. Et on lui a même demandé, jusqu'à la fin, de parfois de diriger des concerts alors qu'il ne pouvait plus tellement bouger, même de jouer du piano, alors que bon, il n'était pas hyper bon pianiste, hein, c'était pas son truc, hein, il était compositeur, quoi. Mais il a quand même fait encore des concerts avec, pour accompagner des chanteurs, des choses comme ça. Non, il était reconnu comme un maître, oui.
Bien, alors c'est ma seule question, comme ça vous serez... Mais j'ai deux choses de plus à vous dire, qui sont liée à Ravel. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les héritiers de Ravel sont les détenteurs et recordmen du monde des droits d'auteur, puisque le boléro de Ravel en France est tombé dans le domaine public il y a quelques années, un ou deux ans, je ne me souviens plus exactement. Et donc, ceux qui émargent à la Société des auteurs, ça doit être dépassé les 100 millions d'euros cumulés sur la période, donc quasiment un siècle. Et il y a encore des droits qui courent dans les autres pays étrangers. Et donc, c'était une cash machine absolument extraordinaire. Donc, voilà, donc ça c'est un peu méconnu, hein, mais je le rappelle. Hein, et lui, il a vécu, et surtout tous ceux qui, les ayants droit, comme on dit, vivent encore aujourd'hui d'une façon tout à fait plantureuse. On parle des salaires de PDG, des footballeurs et des choses comme ça. Les héritiers de Ravel, ils jouent dans la même catégorie. Vous voyez ce que je veux dire? On n'en parle jamais, évidemment. Hein. C'est les rentiers les plus parfaits. Hein. Donc on voit un peu l'exagération du droit d'auteur qui, comme vous le savez, a été inventé par Beaumarchais. Donc on est passé d'une situation où les auteurs étaient rien, hein, on va dire ça, n'étaient rien. Et alors ça, c'est dans les pays de droit d'auteur à l'européenne, parce que je vous rappelle quand même, dans les pays anglo-saxons, il y a le copyright, qui n'est pas le même système, qui est le copyright, c'est un système où c'est vendu à l'éditeur et donc le lien avec l'auteur est coupé. Donc dans tous les pays anglo-saxons, vous avez le copyright qui est différent de tous les autres pays du monde. Les pays anglo-saxons, une législation des droits d'auteur qui est spécifique. Hein, voilà. Et donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, pour faire la continuité, la transition, au mois d'avril nous aurons Monsieur Philibert qui viendra nous parler de George Gershwin, donc qui est pour faire le lien entre la musique classique, on va dire, et le jazz, donc George Gershwin, et qui est représentatif de cette époque, de tout à fait de cette époque, donc c'est la même époque, donc vous voyez. C'est un complément tout à fait bien, mais c'était étudié à l'avance, bien évidemment. Voilà. Non, c'est le... Oui. Monsieur Philibert est venu il y a quelques années nous faire quelques conférences sur le jazz. Donc, on lui a redemandé, parce qu'on a dit, ça fait la continuité, on lui a redemandé ce thème-là, ça va bien se marier avec Ravel. Voilà. Merci.